Bonsoir. La réouverture en grande pompe de la cathédrale Notre-Dame, samedi 8 décembre, dont l'incendie il y a 5 ans, le 19 avril 2019, avait suscité une incroyable émotion, s'annonce comme un événement planétaire. Fragilisé par la probable censure de son Premier ministre demain, Emmanuel Macron mise sur ce rendez-vous, qu'il a érigé au rang des « fiertés françaises », je cite, comme les JO de Paris. Il a prédit vendredi dernier un choc d'espérance après avoir tenu son, je cite, « défi insensé » d'une restauration en 5 ans qu'il avait lui-même fixé au lendemain de l'incendie. On a appris ce matin que Donald Trump, le président élu américain, sera présent. Il s'agira de son premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire à l'élection présidentielle du 5 novembre. Mais alors que la liste des personnalités présentes n'est pas encore connue, il est certain que celui qui semblait devoir être l'invité principal, le pape François, manquera à l'appel. Fidèle à son dédain des mondanités, il a opportunément été invité aux périphéries, en Corse, pour un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, dans un peu moins de 2 semaines. L'agence France Presse a eu la bonne idée de collecter des témoignages d'artistes qui ont partie liée à la cathédrale, faisant apparaître la force du lien unissant les Français et le reste du monde à ce chef-d'œuvre de l'art gothique du XIIe siècle, l'un des monuments les plus visités au monde, avec 12 millions de visiteurs chaque année. J'ai choisi 4 témoignages. Tout d'abord, Julie Fuchs, soprano, qui s'est produite dans la cathédrale en décembre 2020 et chantera à sa réouverture. Je cite, « Comme tous les Français et tous les gens du monde entier, j'avais été très touché par l'incendie. Une cathédrale, c'est un lieu bien plus que religieux, c'est un symbole de rassemblement, de recueillement. C'est le symbole aussi d'une pierre posée après l'autre, de cette construction faite sur des années avec tellement de soin, de respect pour la dignité, pour la beauté. » Deuxième témoignage, Jean-Jacques Annaud, cinéaste, qui a réalisé le film Notre-Dame brûle en 2022. Notre-Dame est une star internationale d'une grande beauté qui a été attaquée par le plus charismatique des méchants, le feu. De toutes les actrices, que j'ai eu la chance de diriger, Notre-Dame est sans nul doute la plus digne, mais aussi la plus fragile. Ensuite, Jean-Charles de Castelbajac, styliste, créateur des nouvelles tenues liturgiques à Notre-Dame. Notre-Dame est un lieu extraordinaire parce qu'il n'y a pas de touristes. Il y a des visiteurs et il y a cette dimension universelle. On sent la puissance et on a ressenti une tristesse universelle lorsque Notre-Dame a brûlé. C'était un moment d'une terrible émotion, comme une prémonition pour notre monde en difficulté. Mais je suis un infatigable optimiste, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à dessiner le toit de Notre-Dame en vitraux, à installer des arcs-en-ciel, des anges. Et mon utopie a repris le dessus, mais je n'ai jamais pensé à ce moment que je serais convoqué pour participer à ce merveilleux projet, à cet atelier Notre-Dame qui fait qu'on a ce rendez-vous avec cette merveilleuse dame universelle. Et je finis par Roy Conti, producteur du dessin animé Walt Disney, Le Bossu de Notre-Dame, en 1996. Notre-Dame a une vie propre. Je trouve que sa conception est presque féminine, alors que la cathédrale de Chartres semble plus masculine. Pour moi, Notre-Dame est un symbole de refuge, de pardon, d'acceptation, d'amour. Dans un monde comme le nôtre, nous avons besoin de ces lieux sûrs. C'est l'essence même de la cathédrale dans le film, un sanctuaire pour tous. Parler de Notre-Dame m'émeut presque aux larmes, elle est tellement spéciale. Pour ce dernier mardi d'éthique publique de l'année, nous avons choisi de réfléchir ensemble autour de cette émotion qui a saisi la France et le monde entier suite à l'incendie, alors que le christianisme semble s'effacer avec la sécularisation de la société. Et donc, à la veille de la réouverture de la cathédrale, Nous voulons nous interroger sur la question du rôle du religieux et du spirituel dans la France du XXIe siècle. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir 2 intervenants de grande qualité, Gilles Drouin, Vous êtes directeur, vous êtes prêtre, directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique, et vous êtes conseiller de Monseigneur Ulrich, enfin du cardinal, enfin de l'archevêque, pardon, il n'est pas cardinal, pour Notre-Dame, et conseiller scientifique à l'établissement public. Et Guillaume Cuchet, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et spécialiste de l'histoire et des religions, et vous êtes notamment, enfin, vous êtes auteur de nombreux livres, et notamment « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », « Anatomie d'un effondrement » qui a reçu de nombreux prix. On va commencer par vous, Gilles, avec comme vous avez travaillé à la nouvelle organisation de la visite à Notre-Dame, et vous m'avez dit que c'est votre spécialité de universitaire, donc vous êtes spécialiste de liturgie, mais de l'organisation de l'espace liturgique. Donc expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce qui a de nouveau à Notre-Dame? Si j'ai bien compris, on rentrera, quand on rentrera, on ira tout de suite à gauche et on tournera dans le sens des aiguilles du monde, des aiguilles du monde absolument, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Voilà, bonsoir, alors vous avez tout compris, hein, c'est l'essentiel. Non, mais je vais quand même vous le lire parce que j'avais prévu, vous avez bien fait, disons, si je peux me permettre, de citer des artistes, parce que pour comprendre, j'ai essayé pendant longtemps de comprendre et d'essayer de comprendre au plan politique, au plan patrimonial, au plan historique, je suis moins compétent que vous, mais les raisons de l'attachement de Notre-Dame. Et je voudrais quand même, même à titre d'hommage, vous citer ce que, et souvent c'est les artistes et les poètes qui savent le mieux en parler, ce que disait François Cheng juste après l'incendie à la Grande Librairie. Ici, permettez-moi d'ajouter, cette chaîne qui parle, une brève remarque plus intime. N'oublions pas qu'il s'agit de Notre-Dame, donc d'une présence maternelle. L'amour maternel, nous savons ce que c'est. Nous le considérons comme quelque chose de naturel, de normal. Nous en jouissons, nous en profitons, nous en abusons souvent, sans trop nous en soucier. Un jour, cette présence maternelle nous est arrachée. Nous plongeons dans un immense regret. On se dit, il y a quelque chose qu'on aurait pu lui dire. On ne lui a jamais vraiment dit, je t'aime. Maintenant, c'est trop tard. Eh bien, ce sentiment de trop tard nous a tous saisis au moment où la flèche s'est transformée en torche et s'est brisée. Un cri d'effroi a surgi en nous, mais Notre-Dame va partir sans qu'on ait eu le temps de lui dire adieu. C'est beau, hein. Alors on va lui dire, je pense qu'on va lui dire je t'aime, hein. Voilà, hein. C'est pas simplement, j'espère, une inauguration en grande pompe. Il y a l'inauguration, mais il y a les 15 millions de personnes qui vont lui dire je t'aime. Je veux pas être faire dans le lyrisme, mais je lisais un sondage, je crois que c'est dans La Croix, où on disait que la moitié des Français pensaient y aller dans l'année qui vient. C'est incroyable, hein. Alors, simplement pour répondre ce coup-ci directement, non pas à votre question, parce que la question a un rapport, j'allais dire, ces 15 millions de personnes, ben finalement, alors moi c'était mon job, je suis théologien, j'essaie, je suis théologien de l'espace liturgique, eh bien finalement, comment eh bien les introduire au mystère de Notre-Dame? Alors, on est parti, je peux vous dire, d'une conviction, hein, je peux être un peu théorique, mais une conviction forte, vraiment, d'ailleurs qui n'est pas spécifique au monde des théologiens, qui était celle du rapport de Bray, à une époque, c'est-à-dire de dire que...
pour de Bray, 1959 ou...
Non, de Bray sur l'enseignement du fait religieux à l'école, voilà, alors, je sais pas la date, hein. 2012, oui, quelque chose, c'est-à-dire que... Je pense vraiment que pour entrer dans l'intelligence d'un monument, du monument de la cathédrale, c'est impossible sans avoir un minimum de clés de ce pourquoi elle était construite, c'est-à-dire célébrer le mystère chrétien. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a, j'allais dire, habité dès le départ. Hein. On s'est dit, on a pris en compte, j'allais dire, c'est-à-dire l'atelier
c'est,
Notre-Dame.
C'est qui on, d'ailleurs?
On, c'est l'atelier Notre-Dame. Oui,
c'est
pardon,
qui suis... l'atelier Notre-Dame?
L'atelier Notre-Dame, c'était un ensemble de quatre sous-groupes, de quatre binômes, qui, à la fois avec soit un théologien, un pasteur et un homme de l'art, artiste, architecte, etc., qui travaillaient sur quatre dossiers, l'aménagement liturgique de la cathédrale, l'accueil intérieur des visiteurs, l'accueil extérieur des visiteurs et Notre-Dame au sein de la ville. La dernière partie a été un peu laissée en jachère. Et donc ça, c'était, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise en compte dès le départ, eh bien, du fait que on allait accueillir des visiteurs de culture non chrétienne ou post-chrétienne. Ça, ça a été très très important. Dès le départ, hein, dès le départ, dans les principes également, dès le départ, parce que j'insiste un peu sur les principes avant de regarder le. Dans les principes également, il y a eu un refus. Par les archevêques successifs. On a eu deux archevêques et un administrateur. Ça n'a pas simplifié les affaires, hein. Mais, finalement, de séparer les espaces entre ceux qui étaient dédiés à la liturgie, au culte, et ceux qui étaient dédiés à la visite. Vous savez, ça se fait, par exemple, on ne va pas dire du mal des voisins, mais ça se fait parfois quand c'est géré par l'Église. Ça se fait, par exemple, à la cathédrale de Florence, où le culte a lieu, on est bien entre soi au fond, mais finalement, paradoxalement, la nef est muséifiée. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été mis en place dès 2004, même un peu avant, par le cardinal Lustiger. C'est-à-dire, l'idée de célébrer au milieu des gens. Ça n'a pas été simple, hein, parce que on célèbre la liturgie au milieu, vous savez, des gens qui tournent tout autour. Mais en disant, donc ça, c'est vraiment un élément de principe, c'est que la structure de la cathédrale, elle est faite autour de ce pourquoi elle a été construite, c'est-à-dire la célébration du culte, et que le reste, il y a une distinction, mais sans séparation. Et donc, ça, c'était un peu les principes. Et puis, ensuite, eh bien, je le dis, l'idée, c'est matérialisé, entre guillemets, par une formule qui a été reprise alors par les deux archevêques, hein, et les deux recteurs successifs, une cathédrale intégralement catholique, donc ouverte à tous. Hein, intégralement catholique, donc ouverte à tous, on aurait pu mettre gratuitement, gracieusement, j'allais dire. Hein. Mais c'est un paradoxe simplement apparent. C'est-à-dire intégralement catholique, c'est...
Qu'est-ce que veut dire intégralement catholique?
Eh bien, ça veut dire que c'est un monument catholique, c'est un monument qui a été construit, c'est un des rares monuments de Paris qui est encore utilisé pour ce pourquoi il a été fait. Et le intégralement, il a également un caractère spatial, qui n'a pas été simple au départ avec nos amis des monuments historiques. Parce que d'habitude, quand on aménage une église, eh bien finalement, on concède à ce qu'on appelle le clergé. C'est un terme concordataire, c'est plus que le clergé actuellement. Mais l'église, c'est le clergé pour nos amis des monuments historiques. C'est intéressant, hein. Et on leur concède, on nous concède, si j'ose dire, à l'église, eh bien, l'aménagement de l'espace du podium, avec un autel, un ambon et une cathèdre. Et en gros, tout le reste, c'est plus sérieux, c'est dédié à la question artistique. Et on a voulu penser, alors on avait une opportunité unique qu'on n'avait jamais eue depuis Viollet-le-Duc, mais penser l'intégralité de l'espace. Et alors ça n'a pas toujours été simple vis-à-vis, évidemment, mais nous on était dans ce dialogue, le théologien et le diocèse de Paris, finalement, ils privilégient ce que j'appelle la question liturgico-symbolique. On en est les gardiens. La question patrimoniale est fondamentale, mais face à nous, il y a des spécialistes de grand niveau, de bon niveau. Donc ça, c'est un peu le point.
Donc chacun des binômes, il y avait un représentant de l'Église, si j'ose dire, oui. Et un représentant de...
C'était interne à l'Église, mais avec un homme de l'art. Parce que, par exemple, moi je suis un théologien de l'espace liturgique, mais je connais pas mal le XVIIe siècle, mais je connais pas le Moyen-Âge. Vous voyez, un architecte, un spécialiste du Moyen-Âge, on avait pris des gens, des catholiques, mais de bon niveau, de haut niveau. Par exemple, sur la partie de l'aménagement de l'espace liturgique que je pilotais directement, ben l'homme de l'art, c'était Jean-Marie Dutilleul, l'architecte qui a fait Saint-Ignace. Vous voyez, l'aménagement de Saint-Ignace ici. Et voilà, c'était ce type de binôme, hein, qui fonctionnait. Et puis, alors sans vouloir être ensuite, eh bien, l'idée a été de dire que, et c'est peut-être d'habiter l'axe liturgique de la cathédrale. Vous savez, une cathédrale gothique, elle est structurée, hein. Elle a un double mouvement. Quand on rentre dans une cathédrale, on lève la tête. J'ai pendant longtemps fait visiter la basilique de Vézelay. C'est très impressionnant parce que dans la nef, les gens baissent la tête, hein, et quand ils arrivent dans le cœur gothique, hein, voilà. Donc il y a un mouvement d'élévation et un mouvement d'orientation. Elle est orientée vers l'Orient, hein. Et donc l'idée est... On n'en a pas beaucoup parlé, il y a eu plein de polémiques à la cathédrale, mais sur l'aspect strictement liturgique, un des aspects les plus importants, ça sera la présence d'un baptistère, d'un grand baptistère à l'entrée, Hein. Et donc, l'idée, c'est que cet axe, eh bien, il est métaphoriquement celui de la vie chrétienne, centré sur l'Eucharistie, l'autel, dont on invite, il n'a pas changé d'espace, hein, de lieu, il a changé de forme, etc., qui prend sa source dans le baptême et qui a un au-delà, vous savez, la grande croix de Marc Couturier. Donc ça, c'est vraiment c'est structurant, mais c'est fondamental, et ça veut dire aussi que la nef, eh bien, elle est enchâssée entre les deux lieux majeurs de la liturgie chrétienne. On a, alors Jean-Marie et moi aurions voulu aller un peu plus loin, mais on n'est plus dans un face-à-face, mais on est entre le baptistère et l'autel. Donc ça, c'est un point, ça peut vous paraître, mais je pense que, j'espère que ça fera école. Mais je pense, et je travaille auprès de beaucoup d'églises ou de cathédrales, on ne peut plus penser maintenant l'aménagement selon Vatican II en omettant la dimension baptismale. Et je pense que la présence du baptistère à Notre-Dame, il y a le catéchuménat, justement le catéchuménat dans une société sécularisée, il y a aussi tout ça derrière. Le deuxième point, c'est ce que vous évoquiez, eh bien c'est l'espace qui n'est pas séparé mais qui est distingué plutôt d'accueil des visiteurs. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on entrait par la porte droite, le côté sud. Alors, il ne faut pas dire droite-gauche, hein, il faut dire sud-nord. Hein, on est orienté cosmiquement. Et on entrait un peu dans un dédale, etc. Quand le dernier aménagement qui a été fait par le cardinal Lustiger, il y avait 6 millions de visiteurs, il y en a 12 millions au moment de l'incendie.
Passé à 15.
Et puis, il n'y avait pas de problème de terrorisme, si j'ose dire. Donc, vous voyez, il y a aussi ces contraintes-là. Et donc, l'idée, c'est d'entrer par le portail central. Je ne veux pas dire que c'est un effet waouh, mais avoir vraiment être saisi, tout le monde, hein, si on vient à la messe ou non, être saisi par ce grand axe. Hein, et puis, eh bien, tout simplement, plutôt que d'aller, on continue à faire le tour, mais d'aller de la lumière vers la ténèbre, il vaut mieux d'aller de la ténèbre vers la lumière comme expérience, j'allais dire, de découverte de la cathédrale. Et donc, il y a un parcours nord-sud au lieu d'être sud-nord. Ça peut vous paraître théorique, mais Notre-Dame est très sensible. Elle va l'être peut-être plus encore avec sa couleur actuellement. Du côté nord, vous avez une rue, et du côté sud, vous avez un jardin. Donc la polarité de la luminosité est quand même très forte, notamment quand il fait gris. Quand il fait gris, au nord, c'est un peu sinistre, hein, et au sud, c'est lumineux. Donc vous voyez, physiquement, on voit l'effet, et l'idée, eh bien, alors, dernier point, parce que l'idée, c'était aussi, eh bien, et c'est là aussi, le intégralement catholique, que ça a un sens, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, des chapelles qui sont le long de la nef, elles étaient dans un état assez épouvantable. Et parfois, c'était un peu un débarras, parfois. Hein. Et puis, il y avait des œuvres d'art qui avaient été progressivement remises, mais sans structuration, qui étaient... Bref, elles avaient été dépouillées par les monuments historiques de leur peinture de Viollet-le-Duc dans les années 50. On n'aimait pas Viollet-le-Duc à l'époque. Et donc, l'idée, là, pour le coup, et c'est ça, intégralement catholique également, c'est, eh bien, de les habiter. Jean-Marie Dutilleul me disait souvent, un espace mort est le signe d'un dysfonctionnement. Et de les habiter par des figures de l'Ancien Testament. Et l'idée de ce pèlerinage, c'est de mettre ses pieds dans les pas de l'histoire du salut. Donc au nord, il y aura Noé, il y aura Moïse, etc., des figures de l'Ancien Testament. Ensuite, on passe...
Ça correspond à ce qu'il y avait dans les chapelles déjà ?
Alors,
non.
Il y a une réorganisation des œuvres d'art. Aucune œuvre d'art ne doit sortir de Notre-Dame. Ça, c'était une contrainte à respecter des monuments historiques. Mais il y a des créations. Et il y aura des tapisseries, notamment à cet endroit-là. Hein. Grand art d'église avec les vitraux. Je parlerai des vitraux pour le sud. Et puis, donc, vous voyez, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va évoquer l'Ancien Testament, mais il faut voir comment on l'incarne. Hein. Bon, et tout n'est pas terminé au moment de la réouverture, là. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a la clôture du chœur avec les scènes de l'enfance du Christ, hein, du XIVe siècle. Donc là, on passe du côté du mystère du Christ. La couronne d'épines. Et ça, c'est le deuxième point avec le baptistère, dont on parle pas beaucoup, mais qui, à mon avis, est fondamental. C'est, je pense que, après le Concile Vatican II, on n'a jamais fait de grand reliquaire. Et là, on aura un reliquaire monumental, somptueux. Je pense vraiment, Sylvain Dubuisson, l'auteur, est un artiste d'une grande subtilité. Je sais pas. Vous savez, le reliquaire, il est en bois, et il y a une couronne de lumière. C'est-à-dire que, c'est à la fois la fragilité de la couronne qui est une couronne de dérision, mais c'est aussi le lieu de la gloire. Je veux dire, théologiquement, je pense que ça sera très subtil.
Et la couronne. C'est derrière la croix.
Elle y était. Elle y était, mais personne ne la voyait. Ouais. Et après l'incendie, il me semble que la couronne d'épines a acquis un statut. Les Parisiens ne savaient pas qu'il y avait la couronne d'épines à Notre-Dame. Et là, donc, le recteur actuel, qui a été recteur de Lourdes, insiste beaucoup pour que il y ait aussi un lieu où on puisse s'arrêter, toucher également. Vous voyez la dimension dévotionnelle. Et puis ensuite, on retourne. Vous voyez, alors je fais le grand parcours. On retourne. On aura les scènes de la résurrection. Donc le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. On arrive à la statue de la Vierge, mère du Christ et mère de l'Église, hein, et les chapelles sud. Eh bien, on ressort par le sud.
Beaucoup
et les chapelles
éclairées,
sud,
donc.
Beaucoup plus éclairées, seront, eh bien, sont consacrées au saint, à la vie de l'Église. Donc, vous voyez, toute la grande histoire du salut, avec le point de bascule de cette histoire du salut. Mais j'allais dire physiquement, vous voyez, quand le point où on tourne, c'est la couronne d'épines, c'est la crucifixion du Seigneur, et on ressort par le côté sud. Alors ça pour le coup, j'espère que vous voyez bien le intégralement catholique, c'est ça aussi quoi. J'espère que ça fonctionnera. On n'est pas dans l'ordre d'un fonctionnement mécanique, mais qu'il y aura un processus, voilà, d'initiation qui pourra.
On a formé les guides, on a introduit les guides à cette intelligence du mystère.
Le chanoine de Villefranche, qui est très sensible à ces questions-là, est en train de former des guides. Mais vous savez, on ne guidera pas tout le monde. Et il me semble que on est dans l'ordre, un peu comme dans les églises baroques. Alors la difficulté, c'est qu'on n'est plus dans une culture chrétienne, mais c'est c'est pas une pédagogie lourde, c'est quelque chose qui, j'espère, parlera de lui-même.
Oui, c'est une compréhension par le cœur, quoi.
C'est une compréhension par le cœur. Pour y travailler, j'ai théorisé ça à partir des ressources de la théologie de l'initiation chrétienne. C'est plutôt une initiation qu'une pédagogie de l'explication. Y compris avec des lieux de dévotion. La couronne d'épines, on n'a pas besoin d'expliquer. Si on touche, ou on embrasse, ou on met un cierge, c'est important. Donc, vous voyez, alors il y a aussi les images, il y aura des bribes d'écriture qui seront mises, la place de l'écriture sera importante. Donc, on pense, j'espère, que, vous savez, tout n'a pas besoin d'être expliqué, heureusement. Hein, on ne s'adresse pas qu'à la tête, on s'adresse au corps et au cœur, j'espère. Donc, voilà en gros les principes de.
Bah, finalement, le pape aurait été bien là, puisqu'on recherche aussi de la religiosité populaire, finalement.
Oui.
Avec la couronne d'épines, notamment.
Il y a toute une dimension dévotionnelle. Oui, 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 oui. Ben, l'actuel recteur, je vous le disais, qui était recteur de Lourdes, y est très sensible. Et puis, c'est paradoxal parce que, bon, quand vous alliez à Notre-Dame avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le grand Christ à l'entrée qui était mal placé dans un endroit, un espèce de courant d'air et tout, et il y avait en permanence des gens qui priaient. Donc cette dimension est évidemment importante.
Alors, Guillaume.
Je rebondis peut-être un tout petit peu sur ce que mon voisin vient de dire. J'avais plutôt prévu de parler de la scène religieuse contemporaine et donc de la place du religieux aujourd'hui. Mais en venant, j'ai un peu relu un texte que j'avais écrit il y a 5 ans, comme tout le monde assistant à l'événement. Une sorte de description de l'émotion telle qu'on pouvait la ressentir, même si chacun l'a vécu à sa manière, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans, cette émotion très intense qui s'était emparée subitement devant ce spectacle incroyable de la société. Et il m'avait semblé qu'il y avait 3 choses principalement. Première chose, le fait que Notre-Dame, c'est un peu la paroisse de l'histoire de France, c'est-à-dire que les événements heureux ou malheureux s'y célèbrent depuis fort longtemps, depuis l'Ancien Régime, qu'il y a eu des pauses parfois quand les relations entre l'Église et l'État se sont un peu tendues, mais elles ont été relativement courtes. Et en même temps, les cérémonies qui s'y déroulent reflètent l'état des rapports entre l'Église et l'État. Il y a toute une série, et j'allais dire, on connaît toute une série de cérémonies.
Gilles, on a parlé dans la Croix sur le site de la Croix d'aujourd'hui ou d'hier.
D'accord.
On n'a pas souligné souvent que 220 ans jour pour jour, presque avant la réouverture, c'était le sacre de Bonaparte.
Voilà. Donc on a avec le pape. Avec le pape qui assiste à l'événement. Voilà, il y a d'autres événements.
Un peu instrumentalisé.
D'autres événements que j'ai en tête, notamment le Te Deum de la Victoire, le 17 novembre 1918, en l'absence du président de la République, Raymond Poincaré, du président du Conseil, Georges Clemenceau, et du président de l'Assemblée nationale, Émile Deschanel, qui, en vertu d'une conception de la laïcité qui datait plutôt de 1914 que de 1918, n'avaient pas considéré qu'il était possible pour eux d'assister à l'événement, de sorte que le cardinal Hamet, le lendemain, n'est pas venu à la Concorde pour la cérémonie civile correspondant. Voilà. Et en même temps, en avril 1940, dans le contexte de la défaite en cours, aux obsèques du cardinal Verdier, alors tout le monde est là, président de la République compris, entre-temps, même Sainte-Geneviève, la chasse pour l'occasion. Voilà. Il y a aussi tout ça, effectivement, là, le rapport entre l'église Sainte-Geneviève, panthéonisée, et le repli de l'identité parisienne sur Notre-Dame. Bref, il y a tous ces événements, ces solennités qui marquent les Français. Il y avait probablement aussi une dimension religieuse dans notre société très déchristianisée où Notre-Dame incarne l'Église par excellence, d'une certaine façon, d'autant plus qu'elle est de style gothique et que nos églises rurales au XIXe siècle ont été le plus souvent rebâties en style néo-gothique après 1850 et qu'on a en tête, en tout cas, un style médiéval un peu éclectique au sens large qui incarne l'Église par excellence. Je repensais à la fameuse affiche de François Mitterrand, La Force Tranquille, en 1981, avec sa paroisse du Morvan derrière, cette petite église plutôt romane d'ailleurs, mais avec des adjonctions gothiques, rebâties au XIXe siècle, évidemment, comme la moitié ou les trois quarts de nos églises qui ont été rebâties intégralement au XIXe siècle. Donc, Notre-Dame flambant, c'était d'une certaine façon toutes les églises qui flambent. Et la discussion ou la petite polémique que nous avons eue récemment sur la possibilité éventuellement de faire payer les visiteurs à Notre-Dame pour financer les travaux de toutes les autres s'inscrit assez bien malgré tout dans ce raisonnement-là qui consiste à dire il y en a une qui rapporte et toutes les autres qui coûtent. Et si on pouvait organiser un jeu de vase communiqué entre les deux, ce serait après tout pas si bête. Donc l'Église qui flambe dans un pays très décatholicisé, où d'une certaine façon, ce qu'il reste de catholicisme est coulé dans les murs, c'est coulé dans les murs, avec un côté un peu barétien. Il y avait un côté très barétien dans ce moment avril 2019, où tout le monde s'est alarmé de notre identité, de notre histoire, de nos racines, qui flambaient avec Notre-Dame. Côté barétien d'ailleurs, qui contraste beaucoup, je trouve, avec notre climat aujourd'hui, qui n'est plus du tout le même. Bon, évidemment, c'est un événement heureux que nous célébrons, alors que c'était un événement très malheureux. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont intervenues entre-temps et qui ont changé un tout petit peu le climat. Et puis il y avait, je finirai par là sur la question de l'émotion d'avril 2019, parce que ça m'a frappé à la relecture, j'avais presque un peu oublié, mais il y a eu quand même, qui a contribué à fabriquer l'émotion sur le moment, la peur d'avoir affaire à un attentat islamiste. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce qu'on était dans une série d'attentats, une série noire qui avait beaucoup traumatisé la société française. Il y avait eu une tentative d'attentat en 2016 contre Notre-Dame peu de temps auparavant et l'opinion le savait d'une certaine façon. Et ce spectacle incroyable de la flèche s'effondrant, rappelant les Twin Towers, c'était notre 11 septembre d'une certaine façon auquel nous assistions en direct. Ça, évidemment, fort heureusement, ça a complètement disparu, mais ça a fait partie de l'événement. C'était un élément, à mon avis, catalyseur, constitutif, qui a expliqué en partie l'intensité de l'événement et qui a complètement disparu, évidemment, au risque de revenir dans le climat contemporain. Alors, sur la question qui nous avait été soumise, alors évidemment, on pourra en parler des heures, je joue juste quelques pistes très rapidement, comme je fais un peu avec mes étudiants généralement sur ce genre de sujet. Je trouve que ces dernières années, il y a eu deux enquêtes qui sont aisément disponibles en ligne et qui fournissent de la statistique de très bonne qualité qui permet de dessiner le paysage, tout au moins. Ce sont ces fameuses enquêtes trajectoire et origine de l'INED et de l'INSEE qui renvoient à des chiffres de 2008 d'un côté, de 2020 de l'autre. À 12 ans d'écart, on a deux photographies réalisées par des organismes publics, l'INED et l'INSEE, qui sont en soi des enquêtes très intéressantes, à la fois parce que c'est de la statistique religieuse publique, et c'est, il y en a, contrairement à ce qu'on imagine parfois, et c'est à propos de l'immigration qu'on en fait. Et ça, je me paraît intéressant, parce qu'effectivement, l'immigration est devenue un facteur de recomposition très important de la religion qui reste dans la société française. Et donc, les organismes publics ne peuvent pas se désintéresser de ces problèmes et en font très logiquement, même si on n'accède pas très facilement aux données brutes, aux matériaux premiers de ces enquêtes. Donc il y a ce premier point intéressant dans ces enquêtes TO1, TO2, 2008-2020. Et le deuxième point intéressant, c'est que ça porte sur les 18-59 ans, c'est-à-dire des gens qui sont nés après 1960, c'est-à-dire après la grande bascule. Des gens qui sont pas très lestés, si je puis dire, qui sont des enfants de la rupture et qui n'ont pas été mis sur orbite spirituellement, religieusement, par l'ancien monde, en quelque sorte. D'où le fait que la scène religieuse française évolue très profondément et très rapidement. C'est absolument spectaculaire ce qui est en train de se passer. La scène religieuse, c'est-à-dire la répartition faciale des cultes, indépendamment de la question de savoir ce qu'il y a derrière, vaste problème pour le théologien, mais en termes purement sociologiques, combien de catholiques, combien de protestants, combien d'israélites, bon, la scène religieuse, la scène cultuelle. Cette scène cultuelle en France, elle n'avait pratiquement pas bougé jusqu'à une date très récente, depuis la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire une société de culture catholique ultra majoritaire et deux minorités historiques, protestantes et israélites, assez marginales statistiquement, mais ayant, à la faveur de la Troisième République, occupé un poids plus important que leur poids. On était dans ce scénario-là, je dis depuis la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis le moment où, entre la sortie des guerres de religion en 1598 et la révocation de l'édit de Nantes, on passe de 10% de protestants à 2% de protestants. Là, il y a eu un événement. La scène religieuse a changé. Au XVIIe siècle, elle a changé. Mais depuis, elle n'avait pas bougé en dépit de la Révolution française, de la Révolution industrielle, des deux guerres mondiales. La répartition faciale avait traversé le XIXe et le XXe siècle sans bouger. Or, elle
ça, ce qu'on mesure, c'est les baptêmes.
Non, c'est pas les baptêmes, non. C'est le taux de déclaration.
Taux de déclaration.
C'est-à-dire, effectivement, vous êtes quoi ? Alors, on sait qu'on a toujours le taux de la manière dont on formule la question, je n'entre pas dans les détails de la statistique. Mais le fait est que ça bouge très vite entre 2008 et 2020. On assiste à un bouleversement de la scène religieuse. Quels sont ces bouleversements? Je les énonce sans pouvoir les développer. Premier élément, l'élément massif, l'élément majeur, c'est la montée des 100 religions déclarées, qui sont devenues majoritaires chez les 18-59 ans parmi nous, passant en 12 ans de 48 à 53%. La barre des 50% est franchie. On est dans une société où ceux que la sociologie américaine appelle les nones, ceux qui déclarent no religion dans les enquêtes, comme c'est un peu déplaisant, comme on en a fait des petites créatures, on les appelle les nones. Bon, on a 53% de nones déclarés chez les 18-59 ans, c'est-à-dire les gens qui sont aux manettes. C'est un taux d'avenir, ça. C'est pas un taux finissant. Deuxième élément très spectaculaire de la comparaison de TO1 et TO2, c'est le passage de 43% de catholiques déclarés à 25, quasi division par deux en 12 ans. C'est bluffant. C'est la dégringolade. C'est vraiment l'effondrement. Alors, les discussions que nous avons en ce moment récemment sur le petit ressac de taux de confirmés et de baptisés à l'occasion, bon, c'est des choses, ils pourraient ne pas être là, donc on s'en réjouit. Mais quand vous perdez 80% de votre clientèle à droite et que vous en récupérez 2% à gauche, l'opération, évidemment, est pas tout à fait positive. Donc, il y a cet effondrement du catholicisme qui est spectaculaire, et personne ne sait jusqu'où on va descendre. Ça, on finira par s'arrêter. Moi, je ne crois pas du tout à ce que Fourquet ou Emmanuel Todd appellent la crise terminale du catholicisme français. Le catholicisme français change de format. Il ne sait pas encore très bien où il va s'arrêter dans la dégringolade, mais il va s'arrêter parce qu'il y a des endroits où c'est déjà stabilisé. Donc, ça va s'arrêter, mais on est encore dans la descente. Troisième élément, la montée de l'islam, évidemment, passage de 8 à 11% des Français de 18 à 59 ans, donc un taux de croissance relativement important. Je me suis amusé, si je puis dire, à calculer à taux de croissance et de décroissance constant des uns et des autres ce que ça pourrait donner dans 12 ans. Le croisement des courbes entre le catholicisme et l'islam se fera en 2035 à taux de croissance, c'est pure hypothèse, il n'y a aucune raison que le taux de croissance et le taux de décroissance soient constants. Mais s'il était constant, le croisement des courbes se ferait en 2035. Ce n'est pas un fantasme d'extrême droite. C'est inscrit dans les courbes, d'une certaine façon. Quatrième élément, qui était la grande nouveauté de Théo numéro 2, c'est la croissance extraordinaire des autres chrétiens, et notamment des protestants évangéliques, qui ont longtemps été assez marginaux chez nous, en ce sens que... Mais on s'en était pas soucié, peut-être nous catholiques, mais bien à tort. Ils avaient déjà permis au protestantisme français, qui est très minoritaire, qui est à 2%, de maintenir son taux à 2. Le catholicisme, il a dégringolé dans les 60 dernières années. Les protestants avaient maintenu leur taux au prix d'un changement de population, en fait. Précisément, ce sont ces évangéliques qui leur ont permis de maintenir à peu près le taux. La nouveauté, c'est que ça n'est plus simplement un problème de protestants, qui leur permet de maintenir leur taux dans des conditions adverses, c'est que c'est devenu un événement pour la société française. C'est-à-dire qu'il y a, en passant de 2,5 à 9%, alors j'en ai parlé avec des démographes quand même, parce que je leur ai dit comment on fait pour passer de 2,5 à 9% en 12 ans. Moi, vos chiffres de départ, parce que ça me paraît quand même très très bizarre. Mais le fait est qu'il y a une croissance spectaculaire des évangéliques parmi nous, que la révolution évangélique est une très vieille histoire, qui a commencé au XVIIe ou au XVIIIe siècle, qui bouleverse les États-Unis régulièrement, est devenue
l'Amérique latine.
Pour nous, l'Amérique latine, l'Afrique, qui est une révolution mondiale, les banlieues, bien sûr, que ça devient un événement pour la société française. Ça, c'est important. Et puis le dernier élément, et j'arrête là, qui est frappant dans ces enquêtes, c'est aussi, alors là c'est pas un élément statistique, mais c'est plus le fait que, je dirais, le culte qui apparaît le plus fermé ou le plus conservateur dans les différents items qu'on leur soumet, c'est le judaïsme. Le judaïsme apparaît, donc il y a des façades, souvent il faut pas prendre Delphine Horviller pour la réalité du judaïsme contemporain, c'est la façade libérale sympathique, la femme prêtre auquel aspirent les catholiques libéraux, mais derrière, il y a un judaïsme qui est de plus en plus fermé dans un contexte qu'on connaît hein, et qui remonte à plusieurs décennies. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse, on est à un moment, enfin Notre-Dame réouvre dans une France qui est en train de changer de fond en comble ce plan de Dieu. En un sens, on le dit toujours, ça change, ça fait 200 ans qu'on le dit, Félicité de Lamennais le disait déjà en 1817 dans l'essai sur l'indifférence, donc on pourrait dire oui, vous dites ça depuis tout le temps, mais là, ce qui est nouveau, c'est la valeur faciale, c'est la déclaration culturelle, c'est-à-dire que la scène change complètement. Voilà.
Gilles ?
Les statistiques sont, elles ont le mérite d'être, comme vous dites, extrêmement, extrêmement claires sur ce plan-là. J'étais assez surpris. Alors moi, je suis théologien, je suis pas statisticien, je suis pas sociologue. Évidemment, on n'a pas le même, vous le disiez, pas le même type de rapport, notamment sur ce que vous dites sur les quelques catéchumènes. C'est sûr qu'on aurait tendance à les surestimer, mais on ne peut pas uniquement se baser. Donc, on n'a pas le même type de rapport à la scène. En revanche, j'ai été assez, et ça va aller dans votre sens, donc dans notre sens, surpris de voir, et je reviens à Notre-Dame, notamment lors de la visite, la déambulation de Macron avec l'archevêque de Paris, là, de voir comment, finalement, il y a une émotion incroyable, il y a une médiatisation très très forte et tout, mais c'est vrai qu'on a un mal de chien, si j'ose dire, on a une difficulté à évoquer la dimension transcendantale et religieuse de l'événement. Ce qui envahit la scène, c'est magnifique d'ailleurs, c'est la dimension humaine avec les compagnons, la dimension patrimoniale aussi dans un pays peut-être vieillissant, un pays hanté par le déclin et tout. Et je voyais l'archevêque, Monseigneur Ulrich, qui essayait laborieusement, courageusement, d'aborder en permanence les questions de dire quand même ce pourquoi la cathédrale avait été faite et qui était cornérisée en permanence. Et ça m'a impressionné, cornérisée alors que l'environnement n'était pas forcément, c'était plutôt un environnement consensuel, mais avec la ministre, etc. Le seul qui a réussi, et ça je trouve ça, le seul qui a réussi à évoquer un peu la dimension spirituelle et spirituelle chrétienne, c'est l'artiste, c'est Guillaume Bardet. Et j'ai un peu regretté d'ailleurs que Sylvain Dubuisson soit pas là près de du reliquaire de la couronne d'épines. Et je me disais, vous voyez,
Guillaume Bardet, expliquez qu'est-ce que
Guillaume Bardet, c'est l'auteur de l'Hôtel, hein. Et quand il a parlé de l'Hôtel, eh bien, il a eu un discours. Je sais pas quelles sont ses convictions, mais il a eu un discours qui évoquait le sens chrétien de l'Hôtel, hein, fortement. Et l'archevêque.
L'Hôtel et le baptistère, je suppose.
Oui, mais oui. Il l'a dit devant l'Hôtel. Hein, il a présenté. Et je trouvais que c'était assez. Et l'archevêque a présenté le reliquaire de la couronne d'épines, mais l'archevêque, tout se passe comme si finalement une parole institutionnelle n'était plus possible. Ça, c'est quand même très impressionnant. Moi, ça m'a impressionné. Alors, je me suis dit, très simplement, il faut plus que ce soit les clercs qui parlent, il faut que ce soit les laïcs, d'une part. Et puis, je me suis dit, et ça rejoint, ce que vous dites nous éclaire quelque part. Parce que n'empêche que les gens, ils viennent à Notre-Dame. Les gens, ils viennent, et les gens viennent de toute culture, de toute religion, de toute confession. Alors, il y a les Français et les étrangers, également. Et la scène, elle est un peu différente. Et, alors, pourquoi ils viennent ? Alors là, c'est là où je me situe un peu différemment. Pourquoi ils viennent ? Et là aussi, c'est lié à ce qu'on a essayé de faire. Alors l'ancien recteur monseigneur Jacquin disait ils entrent touristes, ils sortent pèlerins. N'exagérons pas. Mais l'idée, c'était assez beau d'ailleurs, c'était son fantasme, mais il faut quand on est recteur de Notre-Dame.
Il faut mieux y croire.
Et c'est là où c'est intéressant, j'allais dire, pour le positionnement également de l'Église dans la société. C'est-à-dire que on a toujours refusé de distinguer les espaces dédiés au culte et les espaces dédiés au reste. C'est-à-dire que les motivations de ces personnes, de sociétés postmodernes et tout, il y a aussi une fluidité dans les appartenances et tout. Et
on voit, vous savez, je veux pas masquer
la réalité, mais on voit comme à la Bonne Mère, moi j'ai vécu un moment à Marseille, des musulmans qui mettent des cierges à la Vierge Marie. Donc on est dans un paysage religieux et dans une proposition religieuse qui ne peut plus passer par un discours institutionnel ex cathedra dont j'ai quand même l'impression qu'il passe mal. Moi au début je m'étais dit quand même notre archevêque il fait pas le job, s'il m'entend qu'il me pardonne, hein. Mais non, je veux dire il fait ce qu'il peut, mais ça m'a surpris. Et là je pense que vous dites alors surtout dans ce contexte avec l'État etc. Je sais pas si c'est de l'exculturation, mais la question, oui, la alors la question que j'ai posée dans la tribune que j'ai faite pour la Croix, c'était de me dire si la cathédrale Notre-Dame, je reviens à Notre-Dame, pardonnez-moi, mais si la cathédrale Notre-Dame, qui a eu cette capacité incroyable quand même de réunir les deux Frances, hein, je parlais de 1804, c'est quand même assez impressionnant. Bon, dans les élites bonapartistes, il y avait l'ancienne noblesse et des régicides, hein, donc et tout ce petit monde cohabitait bon an mal an, bon sous la férule de Bonaparte avec le pape qui bénissait, mais et qui a quand même, vous le disiez, pour même après la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'archevêque n'avait pas été forcément très clean, etc. Est-ce que la cathédrale continuera à pouvoir être un lieu d'unité nationale face à une France fracturée ou face à un autre, mais c'est pas mon job, mais je le souhaite profondément. Est-ce qu'elle peut être ce lieu, on n'a pas beaucoup hein, dans un pays comme le nôtre, hein, qui est vraiment fracturé. Hein. Est-ce qu'elle, on voit quand même autour de la cathédrale, on voit pas beaucoup de voix dissonantes pour le moment. Alors je ne sais pas.
Rebondis un peu sur ce que vous dites. Vous avez évoqué là, en passant, ce concept de sociologie, l'exculturation, qui est une grande thèse forte, qui a été formulée il y a une quinzaine d'années par Daniel Hervieux-Léger, qui consiste à dire, bon, les gens commencent, en gros, pour simplifier, les croyances s'effondrent, les pratiques s'effondrent, et ensuite, la culture vient dans un dernier temps, elle peut survivre provisoirement sans croyances et sans pratiques, elle vit sur le capital, en quelque sorte, mais il y a un moment, si vous alimentez pas la machine, la culture elle-même finit par y passer, et c'est une thèse forte parce que, au fond, c'est probablement un peu à ça qu'on assiste à bien des égards. Mais, en même temps, ce que vous dites me paraît très juste, c'est-à-dire que on a une sorte de système concordataire implicite, c'est-à-dire il n'y a plus de concordat, mais il y a une concorde relative entre l'Église et l'État, et que notre culture politique, avec ses traditions monarchiques de très longue durée, et cette espèce de religion civile à la française, qui veut que dans ce pays de culture catholique majoritaire, c'est à l'Église catholique qui sait y faire en matière de pompe, qu'on demande de célébrer les victoires, de consoler les victimes. Donc il y a une sorte de lien qui s'est noué dans la très longue durée entre l'État et l'Église autour de la célébration des grands événements de l'histoire, et que notre culture politique va maintenir, je pense, le catholicisme. Alors les catholiques eux-mêmes trouveront peut-être ça pas une grande consolation, de se dire on va vivre sous perfusion politique en vertu de nos traditions politiques, c'est-à-dire de ce lien un peu privilégié que l'Église conserve avec l'État, mais après tout, c'est pas rien, parce que tout ce qui peut contribuer à maintenir dans la culture, quelle qu'elle soit, les traditions chrétiennes, comme la possibilité d'une rencontre personnelle avec le christianisme un jour, si l'occasion se présente, moi je crois assez, je plaide assez volontiers, si tant est que je puisse plaider quoi que ce soit, pour un catholicisme de type culturel, non pas au sens patrimonial, pas simplement des choses à voir, mais des choses qui sont présentes à l'état latent dans la culture, qui sont d'une grande densité, d'une grande richesse, qui ont fait leur preuve dans la durée, et qui sont susceptibles, le jour où la rencontre se produit dans votre existence, de changer de nature, en quelque sorte, de démarrer, de déployer des effets, etc. La culture politique peut y contribuer, en ce sens qu'elle peut contribuer à maintenir un catholicisme très déclinant en termes de pratique, de croyance, dans l'horizon collectif, même si, évidemment, le mystique n'y trouve pas son compte de prime abord.
Et ça, vous pensez pas que ça tient aux personnes, parce que quand même Macron, il est passé par les GES, et sa femme a été prof à Franklin, donc elle a été prof chez les GES aussi à Amiens, donc
oui, mais Hollande, je pense que c'est pas simplement une affaire de personne. Je pense que dans le concordat, il y avait une clause qui précisait que certes, le catholicisme n'était plus la religion de l'État, mais la religion de la majorité des Français. C'était un constat sociologique et donc on en tirait des conséquences. Mais on ajoutait que les consuls devaient être personnellement de confession catholique. Et j'ai toujours pensé que un président de la République française, jusqu'à une date relativement récente, qui n'aurait pas d'obsèques religieuses, on l'a bien vu avec François Mitterrand. En 1996.
Une messe, c'est possible.
C'était encore possible parce qu'on était encore dans la matrice. C'est-à-dire le camp laïque, en fait, avait eu une socialisation première de type catholique et la laïcité française était pour beaucoup de gens une façon de prendre leur distance par rapport au catholicisme de leur enfance. Une façon d'étaler la sortie, en quelque sorte. Et donc, il en restait toujours un tout petit peu ou suffisamment, et puis ils avaient été baptisés, pour avoir des obsèques religieuses.
J'espère pas que, et je revois, donc je me centre sur Notre-Dame et son rôle à Paris et dans la société française actuellement, que finalement, ça ne sera simplement un catholicisme sous perfusion politique. C'est vrai que ces grands événements sont importants et tout, mais n'oublions quand même pas qu'il y a 15 millions de personnes qui vont venir à Notre-Dame. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, je pense, par an. Et ce qu'on a essayé de faire, alors modestement, mais à la place qui est la nôtre, justement, c'est peut-être plus ça finalement qu'un discours ex cathedra, c'est de faire en sorte, alors bon, je suis peut-être naïf, mais non pas naïf, mais c'est que, eh bien, ces personnes qui viennent, quelque part, ont créé les conditions de la rencontre et que la rencontre se fasse. Quand même, alors je vais revenir aux catéchumènes, je sais bien que le statisticien, évidemment que les catéchumènes ne comblent pas l'effondrement des baptêmes, et évidemment qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et tout, mais nombre de catéchumènes disent que le passage par une église, les a marqués. Je partage en grande partie, je suis pas sûr de tout saisir, mais ce que vous dites sur un catholicisme patrimonial. On a trop souvent opposé un catholicisme un christianisme de conviction et un christianisme patrimonial. Moi, je suis issu d'une vieille famille catholique rurale. Mon catholicisme, il est fondamentalement patrimonial. J'espère qu'il est devenu un peu un catholicisme de conviction. Donc, pour moi, il est pas méprisable, ce catholicisme. Mais quand même, je veux dire, ces lieux, alors je ne suis plus dans le domaine là de l'analyse sociologique, mais ces lieux, ces hauts lieux sont des lieux pour moi de proposition de la foi. On voit bien dans, alors je ne sais pas ce que sera l'avenir du catholicisme, alors vous savez, puis quelque part, mais on voit bien que on a quand même dans l'effondrement général, il y a des hauts lieux. On est plutôt un catholicisme de points nodaux. Les sanctuaires sont des lieux importants. Je militerais, mais si jamais j'étais évêque aussi, de mettre le paquet sur ces lieux. On voit bien la difficulté qu'on a à tenir le terrain, etc. Mais il y a quand même des lieux stratégiques. Et il me semble que Notre-Dame est un lieu stratégique. Il me semble.
On va passer à la parole à la salle. Des questions ?
Merci. J'ai été interpellé par un propos du père Drouin qui présentait les différents groupes de travail qui ont réfléchi à ce que vous avez fait et qui disait, bon, il y avait un groupe de travail ou un thème, Notre-Dame au sein de la ville a été laissée en jachère. C'est assez étonnant ce propos par rapport au thème de la soirée et par rapport à la préoccupation qui est la vôtre, précisément de donner une place pour le religieux dans la société française. Ça aurait dû être la priorité, Notre-Dame dans la ville.
Alors, je me suis peut-être mal exprimé, c'était parce que c'était Notre-Dame en lien notamment avec les autres églises, c'est-à-dire l'idée c'était de sortir notre approche de sur Notre-Dame d'une forme de splendide isolement, et c'était l'idée de mettre en place un réseau d'églises autour de Notre-Dame, etc. D'ailleurs, une idée qui intéressait fortement la ville de Paris également, hein, pour déconcentrer aussi les flux touristiques. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait eu ça a été mis en jachère parce que parce que c'était complexe et qu'on s'est centré. Mais en revanche, par rapport à ce que vous dites, sur un plan spatial, parce que moi je me situe sur un plan spatial, tout le travail avec la ville de Paris qui a été fait sur le réaménagement des abords de Notre-Dame, là pour le coup, le diocèse ne l'a pas déserté.
Il y a la question de l'Hôtel-Dieu en l'occurrence.
Alors il y a la question de l'Hôtel-Dieu avec l'annonce, mais alors là moi je suis plus du tout dans le domaine, l'annonce qui avait été faite par le président de la République de la mise en place d'un musée de l'œuvre, d'une forme de musée de l'œuvre. Vous savez, quand on regarde la topographie urbaine de Paris au XIIe siècle, quand Notre-Dame, c'est pas pour fuir le temps présent que je vous dis ça, a été construite. On parle souvent de l'île de la Cité avec un pôle civil, un pôle de régalien, le palais, et un pôle religieux. Mais en réalité, la ville était très basse, hein, et Notre-Dame était très haute. Et Notre-Dame, quand vous regardez, assumer les différentes fonctions urbaines et les orienter, mais au sens à l'est de Notre-Dame, il y avait un jardin. Hein, il y avait rien. La ville ne se développait pas. Hein, il n'y avait pas l'île Saint-Louis à l'époque. Et au sud, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez la fonction religieuse, certes, la fonction hospitalière. Maurice de Sully, quand il a construit la cathédrale, il a construit l'Hôtel-Dieu qui avait une emprise au sol plus importante. La fonction universitaire, un peu plus loin, hein, on se méfiait toujours un peu, hein, voilà, avec l'université, au sud également.
La Sorbonne.
La fonction commerciale, la maison aux piliers avec l'actuel hôtel de ville. Et les fonctions régaliennes, le palais et la police et la justice, là où il y a encore le palais de justice. Donc c'est vrai que la topographie urbaine du Paris du XIIe siècle donnait à la cathédrale une place assez incroyable. Elle ne faisait pas nombre avec les autres fonctions urbaines. C'est un peu ça, je dis ça parce que c'est quelque chose, j'ai du mal à l'exprimer, mais que pourrait présenter par exemple le musée de l'œuvre. Comment comprendre l'insertion de la cathédrale dans la ville? À quoi elle servait, quelque part?
Autre question?
Merci infiniment. Pour ma part, c'est pas une question, mais c'est une remarque que je fais à Gilles Drouin au sujet de la manière dont vous allez concevoir le circuit dans la cathédrale. La cathédrale de Chartres que vous avez évoquée part au nord de l'Ancien Testament avec le vitrail de Noé pour se terminer au sud avec le vitrail de Saint Jean l'Évangéliste qui, au sommet de la verrière, et dans son cercueil en train de recevoir, est irradié par la promesse du salut.
Alors, je pense que... Mais vous savez, les rapports Nord-Sud, Ancien Testament, Nouveau Testament, ça fonctionne pas à Notre-Dame, puisque les vitraux, Viollet-le-Duc n'a pas reconstitué les vitraux, ce sont des grisailles. Hein. Mais on ne fait, à mon avis, à travers ça, que réhabiter la structure cosmique également de la cathédrale. Hein. Je vous disais, la cathédrale est orientée. Hein. On chante chaque matin dans la cathédrale, soleil levant qui vient nous visiter, hein, dans le Bénédictus. Vous savez, vous allez le matin à Notre-Dame, ça va être très beau quand ça va être restauré. Maintenant que c'est restauré, mais vous avez le soleil, c'est une image du Christ ressuscitant. Donc, c'est vrai que dans le projet, je veux pas fuir le 21e siècle, hein, pardonnez-moi, mais dans le projet initial de Notre-Dame et qu'il faut épouser pour faire entrer dans le mystère de la cathédrale, eh bien, il y a aussi une très forte dimension cosmique. L'ouest, c'est la ténèbre, hein, le coucher de soleil, et l'est, c'est la résurrection. Donc, et ça aussi, alors évidemment, ce sont des choses on peut mettre des mots dessus, mais ce sont des éléments aussi que la liturgie peut permettre d'expérimenter. Ça peut marcher sans qu'on le comprenne, si j'ose dire. Vous voyez ? Mais voilà. Le rapport Nord, Ancien Testament, Sud, Nouveau Testament, c'est très fréquent. Et à Chartres, c'est magnifique. Les deux roses, notamment. Hein. Pas uniquement, mais oui.
Gilles, vous pensez qu'on peut... Enfin, je veux dire que la visite de Notre-Dame à venir... Guillaume, pardon. Pourra permettre de faire accéder au mystère chrétien, enfin, tout ce que nous a raconté Gilles...
S'il y a 12 millions de visiteurs, même si votre taux de conversion du visiteur en pèlerin est de 1%, ça vous fait à la sortie chaque année pas mal de monde.
Ne raisonne pas comme ça, cher collègue. On s'interdit à raisonner comme ça. Et vous avez raison, mais non, on peut pas raisonner comme ça.
Mais voilà, mais bon, on est renvoyé à cette... D'abord, les visiteurs sont très variés, ils arrivent de partout. Je pense que, voilà, ils ont le fait d'avoir pensé effectivement ce parcours comme un lieu de rencontre possible. Alors, pour ce qui est de la population française, là, je m'interroge davantage parce que... J'ai le sentiment que justement ce décrochage que je décrivais avec ces chiffres un peu glaçants, la particularité c'est que on est souvent dans les familles à la deuxième ou à la troisième génération du décrochage. C'est-à-dire que on n'a pas affaire à des décrocheurs qui sont brouillés avec le catéchisme de leur enfance et qui se battent avec lui. On a affaire à des décrochés. Ils sont nés décrochés. Donc ils n'ont pas de capital. Ils ont d'ailleurs une ouverture. Du coup, c'est frappant avec des étudiants. Hein. Il n'y a pas d'hostilité chez les jeunes. Il n'y a pas d'hostilité, il y a une curiosité, il y a d'ailleurs des phénomènes spirituels qui les intéressent beaucoup. Je m'étais même risqué là à étude il y a quelque temps à faire un article sur les expériences de mort imminente, qui est un phénomène qui passionne les jeunes. C'est impressionnant, ils connaissent rien au catéchisme, mais ils savent tout de ces expériences de mort imminente. Moi je serais curé, je m'intéresserais à ces histoires, parce que ça passionne la jeune génération, donc... Le spirituel n'est pas mort, certes pas. Les questions génératrices de toute façon, sont toujours là. Donc, il n'y a pas de raison qu'AG continue, ça continue pas de produire toutes sortes de choses. Mais il faut peut-être avoir le courage, là j'en parle comme analyste, pas comme prêtre, de suivre un peu son objet, le spirituel, dans ses transferts contemporains. Et on n'y va pas de gaieté de cœur parce que on préférerait lire Karl Rahner plutôt que de regarder de près les expériences de mort imminente. Mais nos contemporains sont là. C'est leur problème, c'est leur question. Alors si le christianisme a quelque chose à dire de la mort et de la résurrection, je crois que oui, il a quelque chose à dire de la mort et de la résurrection, eh ben qu'il y aille. Ou sinon qu'il se taise. Qu'il n'a rien à dire aux contemporains, qu'il se taise. Donc je pense qu'il y a du travail quand même.
Et les étudiants que vous avez sont des gens qui sont de culte, enfin qui se décrivent comme étant de culture catholique ou ont un intérêt, comme vous le dites, parce qu'ils sont intéressés par le monde qui les entoure.
Les étudiants, j'ai fait deux universités, plusieurs universités, mais mes deux dernières très différentes. J'étais à Créteil. Oui, alors à Créteil, j'avais des étudiants de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de toutes les religions. J'avais souvent des discussions très intéressantes avec. Il y avait une communauté juive assez importante aussi à Créteil, donc il y a une communauté juive, il y a pas mal de musulmans. Quand vous parlez à des étudiants, des jeunes musulmans d'aujourd'hui, des problèmes de la justification au XVIe siècle dans la naissance de la réforme, mais ils savent de quoi vous parlez. Ils comprennent très bien de quoi vous parlez. Dieu existe, le péché aussi, la culpabilité aussi. Autrement dit, c'est frappant ça de voir à quel point, dans ces banlieues, on est souvent plus facilement de plein pied dans les questions religieuses, etc. Mes petits blancs qui en sont à la quatrième génération du décrochage, ils sont nettoyés, le logiciel.
Là, vous parlez de la Sorbonne.
Il y en avait quelques-uns à Créteil. À la Sorbonne, c'est encore un peu différent parce qu'en plus, moi, j'enseigne en troisième, quatrième, cinquième année, donc ils sont un peu sélectionnés. Il y a encore une jeunesse catholique qui est présente. Et il y a, par la force des choses, à force de faire de l'histoire médiévale, de l'histoire moderne et de l'histoire ancienne, ils finissent par savoir pas mal de choses du christianisme historique. Donc, ils sont pas complètement ignorants. Mais effectivement, ceux qui sont passés un peu à travers ce type de formation ont une sorte de rapport vide à la chose. Ils voient pas du tout de quoi vous parlez. Donc il faut arriver à reconstituer l'expérience dans son état natif pour faire émerger, non pas la réponse, mais le problème. Il faut faire émerger le problème qui est nécrosé en quelque sorte.
Alors... Oui, vous savez, je suis prêtre du diocèse d'Évry, hein, j'ai été curé en banlieue pendant des années, hein, je vais peut-être y retourner d'ailleurs. Là, je partage évidemment, la question religieuse est paradoxalement beaucoup plus simple finalement. Les couches religieuses sont non seulement vides, mais peut-être pas à Palaiso, mais sont assez proches hein, finalement, ça c'est vrai. Mais là, je reviens parce que j'entends ce que vous dites. Je reviens encore une fois à Notre-Dame. Je dis pas que Notre-Dame va être la solution à la déchristianisation de la France. Mais ce que je dis simplement, c'est que à Notre-Dame, nous avons, j'aime pas dire ça un outil, hein, parce que c'est pas un outil, c'est plus que ça. Mais nous avons cette grâce d'avoir un lieu éminent, un lieu catholique, et on a tenu à vraiment à ce que qu'il reste, non pas qu'il soit, mais qu'il soit plus catholique qu'avant, si je dis intégralement catholique, mais ouvert à tous. Ça, c'est pas un catholicisme identitaire, c'est un catholicisme, voilà, je pense, d'ouverture, etc., profondément. Mais je suis pas sûr d'ailleurs que ces jeunes de banlieue vont venir, ça j'en suis pas sûr. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'Église, le diocèse de Paris, a essayé dans ce lieu de prendre en compte les populations qui viennent nous voir, telles qu'elles sont, vraiment. Et ça, c'est sur ce plan-là. Après, ça n'est pas la réponse, et je partage complètement, notamment, une certaine génération de petits blancs, c'est sûr. Hein, mais je pense que, là je parle de Notre-Dame, je parle pas d'autres types d'ex, parce que vous dites, je serai curé, mais moi je suis prêtre, mais là, je me suis occupé de Notre-Dame. Hein, et ça, je crois que c'est quand même assez important, me semble-t-il. Ce que je disais également, c'est que, en revanche, ça rejoint ce que vous disiez sur le plan politique, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai que la parole institutionnelle est comme, je ne dis pas démonétisée, mais elle a du mal à trouver sa place. Et ça, c'est nouveau. Vous savez, j'étais secrétaire général des JMJ de Paris au temps du cardinal Lustiger. La société, et ça rejoint ce que vous dites, alors il y avait la grande figure du cardinal Lustiger, mais je pense que même une parole à la Lustiger n'aurait pas forcément le même poids aujourd'hui. Parce que, et là ça rejoint, la société a profondément changé. Une parole épiscopale à l'époque, ça avait encore du poids. Et ça, il faut en prendre acte, hein.
Mais si on cherche d'ailleurs à dater un peu ça, mais on le fait un petit peu au flair, moi, j'ai eu le sentiment, j'ai un souvenir qui m'avait frappé sur le moment, lors de la grande mobilisation de 2013 contre le mariage pour tous, dans lequel des catholiques, pas tous, mais avaient quand même joué un rôle assez important. Je me souviens que les journalistes s'étaient mis à parler pour la première fois, m'avait-il semblé, de la communauté catholique. Le vocabulaire, la communauté catholique.
Une des composantes de la communauté nationale.
Une parmi d'autres. Oui. Là où, par hypothèse, tous les Français étaient plus ou moins catholiques jusque-là, même si on savait bien qu'ils l'étaient à des niveaux d'intensité très variables, tout à coup, il y avait une communauté catholique, c'est-à-dire un groupe minoritaire, comme il y a une communauté protestante, une communauté juive, une communauté musulmane. Et je m'étais dit, c'est quand même pas rien, ça. C'est-à-dire que c'est peut-être simplement la contamination du vocabulaire communautariste chez les journalistes qui se mettent à raisonner en termes de communauté. Mais pas que. Je pense que c'était, de leur part, une façon de prendre acte à la fois peut-être de tendance interne au milieu catholique, d'orientation idéologique et spirituelle, mais d'un phénomène statistique. C'était du phénomène qu'on était passé sous une certaine barre statistique. Oui. De sorte que quand vous êtes sous la barre, vous n'embrayez plus mécaniquement sur le monde extérieur. Vous n'êtes plus assez nombreux pour avoir des effets sociaux mécaniques. Donc, personne ne vous prévient, personne n'a levé le drapeau en disant « Les gars, on vient de passer sous la barre, il faut changer le logiciel si on veut rester à l'échelle de la société globale ». Mais c'était pourtant ça, ce qui se passait. Et c'était 2013. Je dis pas, c'est peut-être 2005, c'est peut-être 2000. Mais quand même, il y a des indices comme ça en histoire. De temps en temps, il y a un changement de vocabulaire qui donne à penser qu'il s'est passé quelque chose dans les profondeurs de la société qui vient de remonter par le vocabulaire journalistique.
D'autres questions?
Oui, une question pour Guillaume Cuchet. Il nous a fait part de... Pardon. Il nous a fait part des résultats des enquêtes qui montrent une baisse très sensible, disons, de la population catholique. Mais si on affine ces enquêtes, est-ce que d'un côté, on trouve pas la montée dans le monde catholique de tout ce qui relève de la doctrine sociale? Et à l'autre côté, ce qui s'accroche à la tradition. Est-ce qu'il n'y a pas là des forces dans les catholiques qui augurent un peu de ce que sera la communauté catholique dans quelques années. Et une masse qui continue à baisser, mais de côté, j'irai à gauche et à droite, excusez-moi, d'un côté la doctrine sociale et de l'autre côté la tradition.
Bon, alors ça, c'est vraiment de faire il faudrait faire la carte, effectivement, des tendances, des orientations à l'intérieur du milieu catholique. C'est quoi le milieu catholique, d'ailleurs? C'est des gens pour qui, je dirais, leur conviction catholique est un déterminant du vote, des comportements, des activités. Bon, ces gens-là, ils sont combien? Et quel est exactement le rapport de force interne entre les courants? C'est très difficile à savoir, parce que chacun prétend avoir des courbes montantes et la courbe de l'adversaire déclinante. Il y a des groupes très bruyants et d'autres plus nombreux qui font pas de bruit. Donc, il y a d'abord un premier problème qui est de décrire, en fait, le rapport de force réel. Je dis rapport de force.
Il y a des groupes invisibles.
Il y a des groupes invisibles. Donc,
le monde du catholicisme, on l'évoquait avant, pardon, mais issu de l'immigration, qui est assez important et qui va souvent du côté des évangélistes, mais dont on ne parle pas. Et qui est en Île-de-France, qui est très important. Hein.
C'est pour ça que moi je suis un peu. Mais là, on est dans l'ordre des travaux à accomplir. Par exemple, en termes de sociologie, moi ces dernières années, j'ai eu tendance à répéter que le milieu catholique français me paraissait avoir ce que j'ai appelé une sociologie en U, c'est-à-dire à être assez bien représenté dans l'aile droite du U, c'est-à-dire dans une certaine bourgeoisie traditionnelle qui a plutôt pas trop mal défendu ses couleurs dans la Bérézina, qui a plutôt plus d'enfants que les autres, qui divorce un peu moins que la moyenne, qui met ses enfants dans des établissements d'élite, qui a des paroisses vivantes, des mouvements d'église. Bon, tout ce monde-là va assez bien. Il y a un milieu, en quelque sorte, qui est assez restreint, mais assez vivant et dynamique, qui c'est la barre de droite. Il y a une barre de gauche. La barre de gauche, elle est nourrie par l'immigration chrétienne, extra-européenne. C'est ce que je voyais à Créteil. Qui ont la même sociologie que les évangéliques ou les musulmans, c'est les mêmes, ils habitent au même endroit d'une certaine façon, et là il y a un catholicisme populaire, très vivant, c'est d'ailleurs à mon avis pour le catholicisme...
Pourquoi vous l'appelez barre de gauche? Parce que je suis surpris, parce que ouais, sur des questions... Non mais j'allais dire...
Parce qu'il faut
voilà.
quelque part,
oui, mais,
c'est la barre populaire.
C'est pas politique.
Non, c'est
parce
pas,
que il faut,
c'est pas politique.
Parce que sur le plan, par exemple, pour la manif pour tous, c'était pas du tout de ce clivage-là, oui.
Non, c'est pas politique.
Oui.
C'est pas politique, mais c'est, disons, une certaine bourgeoisie... Un catholicisme populaire issu de l'immigration, qui est assez vivant et qui ressemble au groupe vivant chez les évangéliques. Et puis, la base du U. Qui est ce que j'appelle le fossé d'effondrement sociologique. C'est-à-dire que la France blanche, les petits blancs, c'est les électeurs du RN. Voilà. Chon. Alors là, il y a eu un effondrement, ce qui est pour l'Église à la fois, à mon avis, une chance et un problème. La chance, c'est d'avoir deux prises. Une dans les milieux populaires issus de l'immigration et une chez les moins intégrés et une chez les plus intégrés. Les héritiers de l'histoire de France. Bon. Et puis entre les deux, il y a les classes moyennes et populaires blanches qui sont sous-représentées, mais comme elles sont le gros de la société française, émanent de ces classes populaires suffisamment de demandes de baptême, de communion, de mariage et d'obsèques surtout, pour occuper un clergé divisé par 10 dans ses effectifs. C'est-à-dire que le taux d'occupation du clergé est constant, mais c'est 3 étages au-dessous. Et ce fossé d'effondrement sociologique, moi je suis étonné de voir que on n'a pas encore décidé, je sais pas quoi, à la conférence des évêques de France ou ailleurs, de produire une description qui soit enfin un peu précise de tout ça, plutôt que d'y aller au flair, aux impressions plus ou moins idéologiques des uns et des autres. Effectivement, il y a des groupes invisibles. Combien pèsent ces tradis bruyants dans l'Église? Ils sont combien? C'est quoi exactement ce milieu très homogène, dynamique, démographiquement? Le catholicisme d'autrefois faisait beaucoup d'enfants, ça l'aidait. Il pouvait s'offrir un taux de perte de 10% intergénérationnel parce qu'il fabriquait 15% de plus de gamins que le parti d'en face. Donc il y avait une espèce de... Il avait des taux constants même avec des pertes. Bon, donc la question démographique est très importante. La question démographique est très importante. Pas une question apostolique, mais ou très indirectement. Voilà. Donc il y a une description, à mon avis, à faire des forces sociologiques et des forces idéologiques, des forces spirituelles, effectivement, qui pèsent quoi exactement dans l'Église d'aujourd'hui.
Si j'ai bien compris, quand on voit ça pour les sondages, effectivement, c'est une question pour nous à la Croix quand on y a une élection présidentielle. On dit le vote des catholiques et le vote des catholiques, en réalité, des gens qui, les catholiques, ce sont les gens qui se décrivent comme catholiques. Il n'y a même pas besoin d'aller au culte, enfin d'aller à la messe. Les gens qui sont catholiques pratiquants, si j'ai bien compris, désormais sont les gens qui vont à la messe au moins une fois par an. Et les gens qui sont très pratiquants sont les gens qui vont à la messe au moins deux fois par mois, je crois. Donc effectivement, il faut voir, il faut mesurer le...
Il y a une histoire formidable à écrire, l'histoire de l'indice. L'histoire de l'indice, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quand le taux s'effondre, on change l'indice. D'abord, ça c'est réflexe dans l'Église. D'abord, on arrête de compter quand les cours s'effondrent. Bon, ça, c'est la première. On a compté pendant 25 ans, après la Seconde Guerre mondiale, quand le truc s'est effondré, on dit « Oh, finalement, ça ne nous intéresse pas tant que ça. » Bon, donc, on compte que quand ça va bien, et on change l'indice, effectivement, c'est une fois par mois, puis une fois... de sorte que les comparaisons sont complètement abracadabrantesques. C'est pas complètement faux non plus, parce que le vécu de la pratique a une histoire. Effectivement, on peut...
Ça correspond à des réalités.
Ça correspond à des réalités. Mais si vous voulez faire des comparaisons qui se tiennent un peu dans le temps, il faut garder le même indice. Voilà. Donc, si vous gardez l'indice classique de la sociologie pastorale d'après-guerre, c'est-à-dire qui va à la messe tous les dimanches, sauf excuse canonique, dûment constatée par monsieur le curé...
C'est quoi? C'est du 2%, ça?
Eh ben, c'était 25% des adultes en 1965. C'était 25 pour 1 adulte sur 4. C'était avant la SIAZ et le Covid. C'était la dernière enquête sérieuse que vous avez publiée. C'était 1,8. Donc, 25, 1,8. Et je pense que SIAZ et Covid ne lui ont pas fait du bien à votre taux. Donc, si on est à 0,7, c'est bien le bout du monde. Voilà. Bon. Mais 0,7, ça suffit pour faire du monde, hein, le dimanche. Surtout quand il n'y a plus qu'une ou deux messes, et pas 7 ou 8 comme autrefois. Donc, vous pouvez concentrer votre population, ça, il y a une visibilité.
C'est quoi, c'est 420 000 personnes? C'est juste ça?
C'est pas mon domaine de compétence, hein. Alors, je suis pas du tout, alors vraiment.
6,42.
Ouais, quelques centaines.
Ouais, 400.
De milliers,
ouais. Ouais. Moins d'un million.
Peut-être moins d'un million.
Chaque dimanche.
Mais c'est pas mal. Aucun groupe en France ne réunit un million de personnes tous les dimanches. Aucun.
Là, on est plutôt à 420 000, donc la moitié d'un million. D'autres questions?
Oui, moi, j'avais une question pour Guillaume Cuchet en particulier. Je trouve que le phénomène d'émotion pour Notre-Dame était très étonnant à saisir. Et notamment d'arriver à voir qui il touchait vraiment. Parce que je pense qu'il a été aussi entretenu par l'étranger, en fait, par le rapport de beaucoup d'étrangers avec Pray for Paris, etc. Toute cette idée qui a mobilisé et donc qui a touché par ricochet un certain type de Français quand même, plus connecté. Au reste du monde. Et donc, je sais pas si vous auriez quelques éléments pour mesurer un peu ce dont vous avez l'impression, la France blanche, je sais pas si elle est périphérique, je sais pas c'est comment la qualifier, mais en tout cas, est-ce que ceux-là ont été touchés par ce phénomène? Est-ce que ceux-là viendront à Notre-Dame? Et est-ce que, pour ceux qu'ils en entendent, c'est pas, un phénomène politique de plus qu'il rejette aussi, enfin, ou qu'il ne, enfin, je serais intéressé par peut-être un.
Non, je ne sais pas, mais ça me paraît très probable ce que vous dites, effectivement, et il faudrait regarder, c'est peut-être un peu tard, mais à l'époque où il y avait des enquêtes d'opinion pour essayer un peu de cerner ce genre de phénomène. Je pense que ce qui va les attirer, c'est quand même c'est un truisme ce que je dis, mais de Notre-Dame, on était impressionné par l'extérieur et déçu par l'intérieur. Là, quand on entrait, c'était gris, il y avait un manteau de 19e-ité crasseuse qui finalement contrastait avec le caractère monumental, très spectaculaire du monument. Désormais, ce qu'on a compris à la télévision ou dans la presse, c'est que l'intérieur est, si je puis dire, rutilant. C'est vraiment... Moi, ça m'a fait penser aux grandes mosquées d'Abu Dhabi ou à la cathédrale orthodoxe de Poutine, vous voyez, le truc hyper flashy.
Ou Chartres. Vous savez, je pense qu'il va y avoir le même phénomène qu'à Chartres, quand on est passé d'une cathédrale mystérieuse, entre guillemets, de Huysmans. Le mystère de Huysmans, c'était de la crasse. Moi, j'étais assez surpris, hein, quand j'ai vu la cathédrale. On a changé complètement d'atmosphère, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Chartres a été complètement rénové à l'intérieur.
On a retrouvé les peintures des 13e et 14e siècles, donc avec une couleur beaucoup plus claire. Hein. Alors c'est pas comme à Paris, c'est pas de la pierre, puisqu'il y a un enduit, ce qu'il n'y a pas à Paris. Mais on a eu, à la Sixtine aussi, on a eu le même phénomène. On a eu un changement complet l'atmosphère que certains ont regretté d'ailleurs, parce que le mystère, le côté mystérieux de Chartres ou de la Sixtine, oui, c'était de la Suisse, ouais, fréquemment. Hein, et le côté, j'allais dire, rationnel de l'architecture gothique, moi j'étais surpris quand je vous regarde, parce que vous êtes chartraine a priori, mais le côté rationnel de l'architecture gothique éclate, puisque on voit la structure de la cathédrale, alors qu'avant il y avait une espèce de brume.
À la fois Notre-Dame, là ça sera de la peinture Viollet-le-Duc.
La peinture Viollet-le-Duc, elle sera dans les chapelles du déambulatoire, mais dans la nef et dans les chapelles, dans la nef ça sera de la pierre et dans les chapelles les chapelles des bas-côtés, c'est une forme d'enduit qui laisse passer la pierre puisqu'on a des dans les années 50, on a enlevé la peinture. Non, c'est la belle pierre blonde de Paris. C'est la pierre blonde de Paris comme la façade. Oui. Je suis quand même, je me dis, parce que vous dites les gens vont, pourquoi les gens vont venir? Et alors aussi, pourquoi les chefs d'État viennent? Alors moi c'est une, parce que je suis pas du tout, je suis pas sociologue, je suis pas, pourquoi les chefs d'État viennent? Ça m'interroge aussi, mais c'est pas mon domaine, mais on annonce.
À ce stade, on sait pas vraiment quel chef d'État viendra. Trump, c'est difficile.
Voilà, alors
toujours difficile d'arriver à comprendre. Et on dit qu'il y a le président allemand qui viendra, mais j'allais dire, il est presque obligé de venir. Et le président allemand, il joue aucun rôle dans la politique allemande. Donc ça fait partie du job de président allemand, quand il y a un truc important en France, de venir. Voilà, bon.
Oui, mais pourquoi est-ce? C'est que la réouverture d'une cathédrale, je veux dire, d'une puissance moyenne, de la capitale d'une puissance moyenne. Je me dis, on fantasme peut-être, mais est-ce que quand des pouvoirs sont fragilisés, on se dit Notre-Dame, ces lieux sont des lieux de réenracinement, j'ai peut-être une culture théologico-politique, mais on a besoin d'y être pour asseoir pour avoir une ouverture, une profondeur historique, une ouverture sur un fondement à son pouvoir, une universalité. Je sais pas. C'est quand même assez étonnant. Alors après, c'est fugace peut-être, hein, mais quand même, m'étonne. Oui.
Oui, il y a certainement le fait que c'est quand même la première destination touristique du monde. Enfin, la France est la première destination touristique du monde, donc tout le monde connaît. L'ancienneté de la nation française, le fait que avec l'Angleterre, on a deux nations un peu matricielles pour tout le monde occidental, et donc. D'une certaine façon, c'est des racines partagées à certains égards. Ils n'ont pas l'impression, le monde occidental, d'être complètement étranger. Il faudrait essayer de voir ce qui les attire. Après, la question de la sacralité, moi, ça me frappe surtout dans les autorités françaises. C'est-à-dire pourquoi la République laïque ne se passe pas de sacralité. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle continue d'avoir besoin d'avoir des lieux où célébrer presque liturgiquement les événements de l'histoire de France, peut-être le dernier en date, la messe après les attentats de 2015, il y a là, c'est attendu. Dans des circonstances de ce type, c'est attendu. Alors ces sacralités ont eu une histoire aussi, parce que la religion guerrière du Te Deum, c'est plus tout à fait la nôtre. Donc ça, je dirais, ça a jeté ses derniers feux avec le Magnificat
de 44.
Le général de Gaulle, c'est très, très intéressant de comprendre pourquoi, quand le général de Gaulle est venu célébrer la libération à Notre-Dame par ce Magnificat, ça n'a pas fait un pli. Alors que je vous ai rappelé que le 17 novembre 1918, Deschanel, Clémenceau et Raymond Poincaré n'ont pas jugé possible d'aller à Notre-Dame. Ça dit à
le président
point,
avait envoyé sa femme. Le président
avait
envoyé son
épouse. Il y avait quand même
ouais.
Mme Deschanel ouais. et Mme Poincaré, puisque Clémenceau était veuf. Mais quand même, il y a eu un renversement entre 1918 et 1944 qui fait que quand le général de Gaulle a été tout naturellement réinstauré la République en commençant par un Magnificat à Notre-Dame, ça, personne n'a bronché. On a bronché que parce que ça a tiraillé dans la nef et que Suard a été coincé dans son palais épiscopal sans pouvoir en sortir et que ça a été une humiliation terrible. Ça a été le seul sujet. Mais là, il y a eu un... Donc la République a besoin de sacralité et l'Église catholique sait y faire en pompe et en sacralité. Et donc, il y a une sorte de concordat sans concordat qui fonctionne depuis.
Oui, juste une question pratique. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Cuchet,
5 points extrêmement issus de des études qui ont été faites, statistiques. Est-ce que on peut se les procurer quelque part, ces 5 points? Est-ce que cette conférence est accessible sur YouTube? Quel moyen pratique peut-on avoir pour avoir ces 5 points qui me paraissent très clairs?
Écoutez, à l'époque, quand l'enquête a été publiée en 2023, pour mon souvenir, les chiffres sont de 2020, mais l'enquête a mis pas mal de temps à sortir, j'ai fait un article dans La Croix où j'ai énuméré les 5 points en disant moi, je trouve cette enquête fascinante et c'est un point de départ, en tout cas pour partir du paysage. Donc, ça doit pouvoir se retrouver
pas de raison.
En 2023, oui. Quelque part dans La Croix.
Mais à la fois, s'ils sont des documents de l'INED ou de l'INSEE.
Alors, ça, effectivement, je comprends que vous n'ayez pas très envie de lire le rapport TO1, le rapport TO2. Il se trouve que je me les suis farci l'un et l'autre et que j'en ai tiré 5 conclusions. Que vous ayez envie de faire l'économie 2, ça, je comprends. Mais j'ai fait ça. C'est quelque part, alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des archives en ligne?
Oui, non, je rappelle juste à tout le monde que ces soirées sont enregistrées et sont disponibles sur le site des facultés de Loyola Paris, sur les mardis d'éthique publique. Donc vous pouvez revoir les soirées qui ont lieu ici. D'ailleurs, s'il y en a certaines auxquelles vous n'avez pas pu assister et qui vous intéressent, n'hésitez pas, elles sont disponibles.
Oui, je pense que dans mon souvenir, c'est la publication
de 2023. Vous trouverez sur le site de La Croix, je pense.
Ouais. Ouais.
Autre question? Oui. Madame.
Bonsoir. Je voudrais parler je sais pas si ça a trait au sujet, mais en tout cas, c'était dans le cadre de la réouverture de Notre-Dame. Nous avons reçu la prière à Marie Immaculée. Bon, je pense que beaucoup la connaissent. Et nous avons été un peu étonnés dans notre communauté religieuse du fait que cette prière, on trouvait qu'elle n'avait pas tout à fait les accents d'une prière. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme si c'était pour nous-mêmes, croyants, chrétiens, catholiques, de se préparer, mais je sais pas, je vais vous lire juste une petite partie, vous allez voir un peu de quoi je veux parler. À un moment, c'est dit, avec le peuple de Paris qui, depuis 860 ans, confie ses joies et ses peines à celle qui a porté le Sauveur, disposons notre cœur. Dans cette prière, il n'y a pas un lieu où on s'adresse à Dieu en particulier. C'est plus comme si on devait se mettre dans une certaine disposition intérieure, se préparer pour justement que Notre-Dame soit réinvestie, nous déjà, par nous catholiques, non pas de façon historique, ou de façon culturelle, enfin tout ce que vous avez évoqué, mais avec cette dimension spirituelle, puisqu'on dit ensuite, pour qu'elle soit toujours dans notre cité, celle auprès de qui nous pouvons demeurer. Et puis ensuite, on a ce passage extraordinaire de Claudel, qui dit qu'il n'a rien à offrir, rien à demander, il vient seulement, Mère, pour vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Je pense que déjà, pour répondre à cette question, quelle place pour le religieux, qu'effectivement que nous, chrétiens, catholiques, croyants, baptisés ou non, qu'on se dise mais que finalement cette immanence, c'est nous-mêmes qui devons la voir et pour qu'elle soit ensuite proposée et évidente, qu'elle paraisse au moins un peu évidente. Alors j'ai mis du temps à comprendre que cette prière était en fait une préparation à se disposer. Voilà. Alors ma question, je ne sais pas, je vous la renvoie. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vous qui avez écrit la prière?
Non, pas du tout. Et je la connais mal, je l'ai écoutée attentivement. Il me semble, mais que c'est une prière qui accompagnait la neuvaine d'habitation de la statue. Vous voyez, quand la statue a tourné pendant 9 jours dans Paris, la statue de Notre-Dame, et qu'elle est revenue dans Notre-Dame. Donc c'est vrai, vous avez raison, vous avez une lecture très fine. C'est pas une prière où on fait une demande à Dieu, mais c'est Alors la demande est implicite quand même. Hein. La demande est implicite. C'est une prière de préparation. Je pense que c'est une neuvaine, c'est une prière de préparation du peuple chrétien à retrouver sa cathédrale, me semble-t-il. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas, directement adressée à Dieu. C'est vrai. Alors après, ça c'est tout aussi la dimension pastorale dont je ne me suis pas directement occupé, mais il y a tout un travail évidemment, parce que il y a aussi le fonds de commerce, comme vous diriez, il y a les paroisses parisiennes, etc. Tout un travail pastoral pour faire en sorte que le peuple chrétien de Paris et des diocèses voisins réhabitent sa cathédrale. Ça c'est et je pense que cette prière et la neuvaine de préparation fait partie de ce travail.
Il y a toute une organisation d'ailleurs pour que les paroisses viennent à
oui,
tour de rôle pour
chacune des paroisses a un jour sur pendant lequel il y a des alors il y a tout un système. Alors là je suis pas du tout compétent sur la gestion des flux etc, mais il y a tout un système également. Dans un premier temps il y aura pas de visite guidée, il y aura simplement des pèlerinages sans prise de parole pour permettre justement aussi à ce que la réouverture, la montée en puissance se fera progressivement. Hein, mais ça, c'est des questions logistiques sur lesquelles je suis pas très très compétent. Même si vous désirez aller à Notre-Dame, à partir de dimanche prochain, alors ça, je suis pas vraiment un spécialiste, mais sur le site de la cathédrale Notre-Dame, on pourra obtenir un QR code qui nous permet d'y entrer et d'entrer à la messe sans faire la queue, hein, tout simplement. La période transitoire va être une période difficile. D'autant plus difficile, tout le monde voudra venir voir la cathédrale, et d'autant plus que le chantier ne sera pas terminé. Hein, le chantier ne sera pas terminé, il y a toute la partie sud et l'arrière de la cathédrale qui va être en restauration, et puis on va être encore pendant 5 à 6 ans, là on va avoir une période plutôt calme pendant quelques mois, mais tout le parvis va être en travaux également. Donc on ne retrouvera pas l'accès à la cathédrale comme on l'avait précédemment avant plusieurs années. Ça c'est bon.
Autre question ? Oui, au fond.
Ceci dit, je voudrais simplement une petite remarque. J'ai quand même été surpris. Alors évidemment, je me méfie parce que j'ai mon voisin statisticien qui oppose le couperet des statistiques. Mais alors peut-être que les curés, hein, voilà, on prend nos désirs pour des réalités et tout. Mais dans la paroisse où j'habite, je suis près du diocèse d'Évry, mais pour le moment, je suis sur une paroisse parisienne et la statue de Notre-Dame de Paris est passée. Il y avait
Il y avait du monde.
Ah, il y avait du monde. Il y avait une ferveur et puis une vraie joie. Une vraie joie, donc vraiment une ambiance, on retourne à la maison, quoi. Il y avait quelque chose, alors voilà, heureusement allez-vous dire, mais il y avait vraiment une très belle ferveur. Je sais pas comment ça va se passer par la suite, vous savez, on peut avoir des surprises. Évidemment, j'entends bien que la démographie est terrible.
Monsieur.
Oui, je vous remercie effectivement pour ces exposés. Je voudrais pas qu'on oublie effectivement la qualité du chantier et qu'on oublie tous ces artisans qui ont travaillé et qui font le lien avec, qui font mémoire avec ceux qui ont travaillé il y a 800 ans. Et de retrouver effectivement toute cette architecture avec le transfert des forces. Et donc, je remercie beaucoup tous ces artisans qui ont travaillé pour pouvoir effectivement avoir ce Notre-Dame rénové.
Alors, par rapport à ce que vous dites, je l'évoquais également, c'est vrai que cette question des artisans, cette question des savoir-faire est omniprésente actuellement dans le discours autour de la cathédrale. Et le général Georgelin, qui est un fin politique sous ses côtés bourrus, dès le départ, il a pris ça comme axe de communication. Le président de la République ne l'avait pas pris au départ. Le président de la République, c'était le geste contemporain. Et maintenant, il s'est converti à ça. Mais c'est vrai, je le dis, c'est pas... C'est admirable, hein, ce que vous avez raison, c'est admirable, on a découvert des savoir-faire, etc. Il y a une fraternité, également des compagnons musulmans qui ont travaillé à des périodes où ils n'auraient pas dû travailler pour la cathédrale. Il y a des témoignages multiples. Mais c'est vrai que, finalement, ce discours tend à rendre impossible tout autre discours plus religieux et transcendantal.
Et même pour les JO, c'était des artisans, ce qu'on a vu quand ils étaient dans les les échafaudages, c'était plutôt des artisans plutôt qu'un message religieux lors de la cérémonie d'ouverture.
J'avais écrit une tribune dans la croix. Là, c'est, bon, vous allez dire, mais sur cette question-là, c'est vrai. Dans les JO, c'était très impressionnant le rapport à l'histoire de France. On voyait bien l'histoire commençait en 1793, une histoire d'émancipation, avait dit le président de la République. Hein. J'avais écrit une tribune qui comparait justement le rapport à l'histoire avec le sacre de Charles III et le rapport anglais à l'histoire, de vieilles nations, comme vous avez. C'est quand même le rapport. L'intégration du passé est très différente en France avec une histoire faite de rupture, bref, je trouvais. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas passer à côté de Notre-Dame, on ne pouvait pas, mais on a réduit le message de Notre-Dame. C'était magnifique d'ailleurs, les danses, vous savez, les danses saccadées des danseurs devant l'Hôtel-Dieu sur le rythme des tailleurs de pierre, mais c'était exclusivement la, même pas la performance, mais la restauration, le caractère patrimonial. Alors c'est peut-être le plus petit commun dénominateur, peut-être.
Voilà, merci. Merci beaucoup à vous tous. Avant de nous quitter, je voulais vous rappeler deux choses. La première, c'est que comme à la fin de chaque soirée, il y a à la sortie des urnes, si vous voulez contribuer au financement des marditiques publics. Et puis, comme nous sommes en fin d'année et que vous avez envie de donner à des associations, n'oubliez pas les facultés Loyola qui forment les futurs religieux en France et à l'international. Donc, une grande attention pour eux. Et puis, le second point, c'est vous annoncer donc le thème de notre prochaine soirée qui aura lieu le deuxième mardi de janvier et qui sera sur l'humour en politique. Peut-il nous aider à sortir